à bâton rompu. À bâton rompu, une émission proposée par Bruno Cyr.
Bernard Burel, bonjour.
Bonjour.
C'est notre quatrième entretien, quatrième et dernier entretien. Je rappelle en deux mots que vous êtes quelqu'un qui a eu une vie professionnelle extrêmement réussie, extrêmement brillante, qu'on vous doit en particulier la réussite de ce formidable projet initié par Dominique Baudis, qui est la Cité de l'espace, que vous avez dirigé pendant 13 ans. Mais parallèlement à ça, vous avez fait beaucoup de choses dans le domaine associatif, au Secours catholique et dans différentes associations dont nous avons parlé dans les précédents entretiens que nos auditeurs pourront retrouver en podcast, avec une réflexion très intéressante sur ce qu'est la précarité, sur la façon dont elle évolue et la façon d'essayer de faire face à ce problème qui malheureusement est grandissant. Mais dans ce dernier entretien, je voudrais qu'on revienne sur une expérience dont vous nous avez parlé la première fois, qui est cette expérience de cette marche que vous avez faite en partant de Toulouse, je crois.
C'est oui, ça, tout à fait.
Jusqu'à Jérusalem, sac à dos, tout seul à pied.
Oui.
Et donc il y a à peu près 7000 kilomètres.
5500 kilomètres et ça a duré 7 mois et 2 jours.
7 mois et 2 jours, donc c'est une vraie retraite, méditation au long cours.
Oui.
Et donc vous nous avez expliqué que ce parcours de méditation que vous avez mené jusqu'à Jérusalem a été en permanence guidé, si on peut dire, par l'Esprit Saint qui était avec vous dans tout ce parcours, et que ça a été véritablement pour vous une rupture dans votre vie, enfin, en tout cas, que ça vous a profondément marqué. Et je voudrais qu'on revienne là-dessus, parce que vous avez une association dans laquelle vous êtes également engagé, avec toutes les autres, c'est une association qui s'appelle Une Fleur pour la Palestine.
Mmh.
De quoi s'agit-il ?
Alors, Une Fleur Palestine, c'est une association qui a été créée il y a une quinzaine d'années par un diacre permanent du diocèse de Toulouse, Alain Dufil, qui est par ailleurs cultivateur dans le sud de la Haute-Garonne, là, vers Sainte-Gabelle. Et cette association, que fait-elle ? Elle recueille des fonds pour permettre à des enfants palestiniens de pouvoir aller à l'école, suivre un cursus scolaire. Alors, ce sont des enfants qui viennent de milieux différents, pas simplement des milieux de la petite minorité chrétienne qui habite en Palestine, puisqu'il y a également dans ces écoles des enfants musulmans. Et donc, nous, avec mon épouse, on est parrains et marraines d'enfants qui sont accueillis dans ces écoles chrétiennes. Et bon, chaque année, on verse une petite obole, bon bref. Et on a voulu, nous, cette année, en 2024, au printemps 2024, aller rendre visite à ces enfants pour leur témoigner notre affection, notre solidarité aux enfants, évidemment à leurs familles. Et donc là, on est retourné en Palestine après 12 ans. Moi, il y avait 12 ans, j'étais arrivé donc à Jérusalem après ce long chemin, ce long pèlerinage. Et on a trouvé un territoire totalement transformé. Ce qui nous a beaucoup frappé, c'est de remonter la Via Dolorosa, il n'y avait personne. Alors qu'il y a 12 ans, en 2012, quand donc je suis arrivé à Jérusalem, ma femme m'ayant rejoint en avion là-bas, il fallait se frayer un chemin dans la foule très compacte de la Via Dolorosa. Il fallait attendre pratiquement une heure et demie à deux heures pour se rapprocher du Saint-Sépulcre. À Bethléem, quand nous sommes allés à la messe de minuit en 2012, un souvenir absolument inoubliable. Il y avait 4000 personnes dans la basilique de la Nativité. Aujourd'hui, il n'y avait personne. Depuis le 7 octobre 2023, il n'y a plus aucun pèlerin, pour des raisons que l'on peut comprendre. Et donc, on a trouvé des Palestiniens chrétiens qui sont dans une situation extrêmement difficile. Déjà, avant ce terrible massacre du Hamas, eh bien, la situation était compliquée pour nos frères chrétiens d'Orient, notamment en terre sainte. Mais là, maintenant, ça devient vraiment catastrophique. Et nos frères nous lancent un appel pour que vraiment on soit présent de différentes manières. Peut-être pas en allant là-bas, parce que la situation est dangereuse, mais peut-être en soutenant davantage ce que fait cette association Une Fleur pour la Palestine, qui, disons, fait un travail absolument admirable. Chaque année, c'est l'équivalent au moins de 150 bourses scolaires qui sont envoyées là-bas au Palatinat de Jérusalem, qui ensuite va distribuer entre les différentes écoles les sommes qui sont récoltées.
Alors, deux questions. D'abord, comment on fait pour vous rejoindre, parce que j'imagine que tous nos auditeurs n'ont pas nécessairement entendu parler de cette association, dont je rappelle le nom, Une Fleur pour la Palestine, qui est une association qui aide les enfants palestiniens, chrétiens et pas que chrétiens, pour les aider à se scolariser. Donc comment on peut savoir comment rejoindre cette association, etc. Il y a un site internet.
Alors, il y a un site internet, il faut taper Une Fleur pour la Palestine, et ensuite, on a toutes les indications nécessaires. On a présente les activités, les bilans, et puis les possibilités de soutenir, d'une manière ou d'une autre, cette association. Voilà.
Bon, ma deuxième question, elle est plus politique, entre guillemets, c'est... À la suite, évidemment, des événements du 7 octobre, la réponse d'Israël sur la Palestine a été terrible. On peut le comprendre, je ne porte aucun jugement de valeur, mais ça veut dire qu'il y a eu énormément de populations déplacées qui se sont retrouvées donc, dans des situations extrêmement précaires. Énormément de logements qui ont été détruits parce que les Palestiniens, enfin les guerriers, le Hamas en particulier, s'est servi un peu des civils comme boucliers humains. Et donc, évidemment, les Israéliens ont souvent détruit un peu sans pouvoir faire du chirurgical nécessairement. Donc, beaucoup de situations de familles durement touchées par la guerre dans leur chair. Donc comment ça se passe aujourd'hui? Vous continuez quand même?
Oui, alors la situation est très 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 difficile pour les Palestiniens, quelles qu'ils soient leurs croyances, c'est évident.
Bien sûr.
Mais les chrétiens souffrent encore un peu plus que, disons, les musulmans. Alors nous sommes allés, nous, en Cisjordanie. Donc nous ne sommes pas allés à Gaza, là.
Oui, donc là-bas c'est plutôt le Hezbollah.
Le Hezbollah, c'est le Fatah surtout qui est la force politique la plus puissante en Palestine, en Cisjordanie occupée. Hein. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu un renforcement du mouvement de colonisation des terres en Cisjordanie. C'est-à-dire entre le 7 octobre ou le 8 octobre et le jour où on est arrivé le 17 avril, c'est-à-dire la veille, le soir même de l'attaque iranienne sur Israël, où il y a eu plus de 200 ou 300 drones ou missiles qui ont été lancés sur Israël. Nous, la première nuit qu'on a passée à Jérusalem, on était hébergés par des sœurs, par une communauté de religieuses. À 1h27 du matin, on a entendu les sirènes, etc. Moi, je suis sorti dehors et j'ai vu un grand feu d'artifice. C'était tous ces missiles et drones iraniens qui étaient interceptés par le système de défense israélien. Bref, mais en Cisjordanie, il y a des colons, des gens extrêmement agressifs, très vindicatifs, très suprémacistes, qui vraiment ont une vision... nationaliste, en disant il faut notre projet, c'est le grand Israël, c'est-à-dire dehors les Palestiniens, et notre terre, elle commence au Jourdain, c'est-à-dire à la frontière de la Jordanie jusqu'à la Méditerranée. Et voilà, ces terres nous appartiennent, elles sont de droit divin, elles nous appartiennent de droit divin. Et donc les Cisjordaniens, Palestiniens, sont actuellement privés de tout droit. Les choses sont de plus en plus difficiles. Il faut savoir que avant le 7 octobre, il y avait 80, 90 000 Palestiniens qui franchissaient les checkpoints pour rentrer en Israël et travailler en Palestine dans l'ameublement, dans l'agriculture, dans des petits travaux comme ça. Et du jour au lendemain, il n'y en a plus que 8 000. C'est-à-dire 90% des gens qui travaillaient en Israël ne peuvent plus franchir les checkpoints.
Alors, donc, Bernard Burel, bon, on comprend bien que la situation, là, on est au cœur d'une guerre qui, malheureusement, n'a que trop duré, mais là, on est à un paroxysme. Est-ce que vous pensez qu'il y a une issue possible et que les choses pourront se renormaliser, ou est-ce que vraiment c'est appelé à continuer comme ça indéfiniment?
Moi, je suis personnellement très pessimiste. Je pense que cette idée de deux États cohabitant pacifiquement, c'est un leurre. Maintenant, les choses sont allées beaucoup trop loin. Les esprits se sont totalement crispés, surtout du côté israélien, il faut le reconnaître, hein, il faut le dire publiquement. Bon, et que je ne pense pas que les gouvernements israéliens à venir changeront de position. La population à 90% en Israël, si ce n'est pas 99%, estime qu'il n'y a pas de paix possible avec les musulmans. Donc voilà, moi je pense que là, les chances de paix sont infimes. Voilà, je suis peut-être trop pessimiste, moi je pense.
Bernard Burel, oui. Malheureusement, le temps voilà. Est passé. Merci beaucoup pour ce témoignage, vous qui connaissez particulièrement bien la Palestine, et donc votre engagement dans cette association qui existe toujours, Une Fleur pour la Palestine, et qui vise à aider les jeunes Palestiniens chrétiens, parce qu'il faut rappeler qu'il y a des chrétiens, et musulmans aussi, pour qu'ils puissent accéder à une éducation de qualité. Donc on peut la rejoindre, cette association, par le site internet. C'est vrai que le contexte politique est dramatique, mais ce n'est pas une raison pour ne rien faire. Oui. Il y a des gens qui souffrent au quotidien, et si on ne peut pas régler le problème par le haut, on peut au moins essayer de le régler par le bas.
Tout à fait.
Voilà. Merci pour toutes ces précisions et tous ces éclairages, Bernard Burel.
Merci pour votre invitation.
À bientôt.